RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Football show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Comme tous les soirs jusqu'à minuit, nous sommes en direct, bien sûr, nous sommes sur RMC, nous sommes sur RMC Sport News, dans l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Jérôme Rotel est là, salut Jérôme.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et Daniel Riolo, Daniel, bonsoir.
Salut les amis.
L'événement de l'After ce soir les gars, c'est la réhabilitation officielle dans l'After des supporters rennais, cible de chambrage récurrent depuis une douzaine d'années, Music Lounge et compagnie. Et bien ce soir on va recevoir l'un d'entre eux, un étendard. Il monte en ce moment un documentaire sur le stade rennais. Il sera avec nous tout à l'heure aux alentours de 22h45. Avant et ensuite, alors ben.
Lui a pris une heure son passe.
Ça commence pas, on a dit qu'on réhabilitait.
C'est un peu fake. Ouais.
Jingle Sommer, vous voulez un petit Jingle Sommer? Bon, pas de Jingle Sommer, il est là. Alors, bien sûr, dans quelques instants, le bordel du calendrier, parce qu'aujourd'hui, là, c'est le flou le plus total sur ce qui va se passer. Ce week-end et après, on va en parler. L'avis de Daniel sur la mentalité des joueurs de Ligue 1. L'avis de Jérôme me parlait de Rudy Garcia ce soir, ouais. Jérôme. Suite près l'Olympique de Marseille, comme toujours. Et puis, tout à l'heure, à 23h20, la suite de nos équipes type, équipe PIP. Ce soir, c'est Bastia qui est au programme. Alors, y aura-t-il du Bastier de l'épopée de Coupe de l'UEFA? Y aura-t-il du Méric Rimo, du Cyril Roll, du Claude Papy? On vous attend.
Bah, Claude Papy, oui, non seulement il y est, mais il est capitaine.
Bah, exactement.
Claude Papy, quoi, c'est la légende bastiaise. Voyons sérieux, la question ne se pose pas.
Du Bruno Valenconi
ou pas? Non.
Bon d'accord, on verra tout à l'heure. En tout cas, supporter Bastier, c'est ce soir ou jamais, vous nous appelez au 32-16. Et puis à 23h40, l'actu anglaise, Julien Laurence sera là, puisqu'on a joué en première ligue hier et avant-hier, il s'est passé plein de choses, donc on voulait quand même...
Ah, il vient Jennifer Laurence quand même ce soir-là.
Ah, tu l'appelles comme ça, toi?
Wow.
Très bien, et il sera là tout à l'heure.
Jennifer, bon match hier soir.
Évidemment le 32-16 est ouvert, évidemment le hashtag RMC Live sur Twitter et puis Direct Studio sur l'appli gratuite RMC Sport, vous la téléchargez, vous envoyez vos messages en appuyant sur la petite radio en haut à droite. Et puis le jeu de Noël, j'ai déjà la boîte, hop, elle est là, avec le cadeau dedans. Vous envoyez Noël par SMS au 732-16 dès maintenant. Vous avez 2 heures pour le faire. Il y a un tirage au sort et vous pouvez gagner un cadeau magnifique. On a des tablettes, des téléphones, des voyages à vous faire gagner, des week-ends avec Jérôme Rotten. Ouais, on a plein de trucs. Des débats avec Daniel Riolo. Enfin, il y a des trucs incroyables
vous allez vous amuser.
À gagner.
Il a toujours raison.
C'est bien le principe du débat avec Daniel.
Ah bah oui, c'est pour ça.
Et Daniel, c'est le mec qui fait une émission de débat depuis 15 ans.
Ouais, mais...
Mais au fait, au fond, c'est pas vraiment un débatteur, parce qu'il a toujours raison.
Bah exactement.
Bah ouais, c'est normal.
Ils se trompent jamais.
Bon, les gars, le calendrier. Donc aujourd'hui, ça s'est succédé à partir de 11h30 jusqu'à 21h30. 6 matchs de Ligue 1 ne se joueront pas ce week-end, dont les deux matchs phares, hein, puisqu'on avait Monaco-Nice demain soir. Là, c'est carrément la principauté qui a dit non, on arrête tout là. Ils ne veulent pas de gilets jaunes, apparemment, à Monaco. Et puis, le match de dimanche soir, également, entre Saint-Etienne et Marseille reporté. Le match du PSG, on le savait déjà. Bref, 6 matchs, donc il en reste, par définition, 4. Je vous pose la question, on fait quoi? On reporte tout? On joue ces quatre, en sachant, on a commencé à en parler hier, Daniel, le fameux trou de calendrier qui correspond à la période où le PSG va aller au Qatar. Le PSG qui fait subtilement savoir aujourd'hui qu'il pourrait très bien faire jouer l'équipe réserve contre Montpellier.
Et alors, pourquoi ils le feraient pas? Ils sont
pendant
libres.
Pendant qu'ils sont au Qatar, les titulaires.
Ils sont libres. Je vois pas. Enfin, si, je vois le problème parce que ça fausse par rapport aux adversaires.
Ils ont le droit de le faire.
Mais ils ont le droit de le faire.
Si c'est impératif pour eux, apparemment,
est-ce qu'il faut le souhaiter?
Marseille l'a fait une année, ils sont venus faire 0-0 au Parc.
Ah oui, avec Civelli, rappelez-vous.
Ah, ouais, j'y étais, je me souviens.
Ah, t'as joué contre eux?
J'étais remplaçant, moi j'étais puni, tu vois. J'étais rentré à mi-temps, le cadeau empoisonné.
Ouais,
rentre, parce que là, on a besoin. Ouais, bah oui.
Non, mais
t'as besoin.
Des dates, mais ça doit se faire au cas par cas. Je trouve que, très franchement, et ce soir on est aussi là pour se détendre, mais la situation dans le pays est assez compliquée, je trouve, en ce moment. Les matchs de foot, limite on s'en fout un peu, quoi.
Bah, c'est pour ça, Daniel.
Ils organisent au cas par cas, ils font des reports. Il s'agit pas de tout annuler. Je pense qu'on reporte aussi parce que les forces de l'ordre me semblent fatiguées et qu'elles vont avoir beaucoup de travail sur le week-end et que bah aller se mettre à l'organisation des matchs de foot, bah, ouais, ça peut attendre, quoi.
Mais moi, je pense que c'est pour ça qu'il faudrait reporter la
toute la journée
complète. Oui, parce que sur les matchs qui restent. C'est on a reçu le président River tout à l'heure là qui nous expliquait que
c'est lesquels ceux qui restent que il y a le Strasbourg
de dimanche 15h.
Ouais.
Mais il y a l'affiche Rennes-Dijon.
Non mais en fait il faut faire ce qu'a fait Kyo, c'est très juste ce qu'il dit, c'est au préfet de décider. À partir du moment où on parle d'ordre public, le foot c'est non, au second plan. Le préfet s'il y a Strasbourg, le mec dit
c'est à Caen en l'occurrence. Ah non, c'est à Strasbourg.
Ouais, c'est à Strasbourg. Je pense qu'il y aura pas de
mais
problème.
C'est dimanche le match,
c'est
pour
c'est
ça.
Dimanche 15h.
Ouais. Ouais.
Donc dimanche normalement donc,
il reste aussi un Reims Toulouse
autant qu'il joue ce qui est possible à jouer et qui reporte qui doit être reporté.
Ouais, mais quand
il reste le Lille Reims, voilà, Lille Reims aussi de qui peut jouer.
Quand t'as plus de la moitié des matchs qui sont déjà reportés.
Pourquoi c'est un problème de les jouer
Guingamp à Milan
parce que dans le calcul on vient de dire le calcul du PSG. Alors le PSG pour lui
ça peut faire un problème d'équité par rapport aux autres, mais c'est quoi le problème?
Bah, sur, quand t'as plus.
19ème journée,
quand
t'as que. Ouais, même pas, la 17ème, pardon.
Quand il y avait une ou deux journées de remise, bon, moi, je peux comprendre, ça arrive de toute façon, et on en a parlé, Olas, qui disait, sa petite réflexion,
ouais,
on devrait remettre tous les matchs et tout ça, mais il y en avait que deux qui étaient annulés. Là, c'est vrai que plus de la moitié, je pense que ça serait raisonnable de dire bon allez stop, on la journée on la joue en effet là ce week-end là du le 14 la semaine du
la
14.
Semaine du 14 ouais.
Il y a un trou, et ben on remet toute la journée là. Et
peu importe, hein, ils peuvent décider.
Bon, voilà, bah c'était.
Là, c'est pas...
En tout cas, la Ligue voilà, a dit nous, on ne reportera pas toute la journée.
Ouais, ouais, bah, c'est ça.
Et
c'est
il a laissé les préfets décider.
Exactement.
Je pense qu'il a raison.
Et puis, du coup, sur RMC, l'affiche de dimanche soir, ce sera River Boca. Eh ouais.
Bah, c'est
on
bien,
sera
ça
au stade
nous,
avec Fred Hermel, Pam, Tevez et tout.
On va s'intéresser à ce match-là.
Exactement. Ouais. Ah, d'ailleurs, sur River Boca, aujourd'hui, donc les deux équipes sont arrivées à Madrid.
Super intéressant.
Et le leader des Barra Bravas de Boca, donc les hooligans de Boca, ouais, le mec s'est fait attraper à la sortie de l'avion par la police espagnole et ils l'ont refoutu dans l'avion pour l'Argentine direct. Hop, tu repars. Merci d'être venu. Voilà.
Il n'y a même pas eu le droit de passer au duty free.
Non.
Hop, direct.
Ouais, non. Hop, à dégager.
Comme quoi.
Mm-hmm. Premier avis du soir, celui de Daniel Riolo, messieurs, dames. Il veut en parler de la mentalité de notre belle Ligue 1.
Tu t'attendais à ce que Grand Cyr soit un cador, putain. Merde,
c'est
quoi.
Pas un cador, c'est que tu le vois pas.
Mais non, mais les mecs. Putain, mais les gars, ils jouent dans des clubs de quartier. Et le mec, il arrive à Monaco, tu t'attends à ce que ce soit une vedette. Mais il n'y a qu'en France qu'on croit ce genre de conneries. Ah. C'est Pierre Ducrot, il m'énerve des fois, Pierre. Hein. T'as vu ce que ça provoque un peu les
deux. Ouais, mais en plus, t'as pas des mots, des gros mots, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est pas bien, ça devrait pas faire jingle, ça. Voilà.
Alors,
hier soir, je voulais. C'était suite à, je trouve, depuis une semaine, voire deux, des réactions aussi bien dans les propos, enfin, des réactions d'entraîneurs, des réactions de joueurs, et donc des matchs et des réactions d'équipes. Qui évidemment me conduisent à l'un de mes thèmes chers sur la mentalité qu'on a en Ligue 1 et surtout les paradoxes qui font que finalement il arrive parfois que pour analyser ce qui se passe dans notre football et je suis sûr qu'à l'arrivée vous allez être d'accord avec moi et notamment toi Jérôme on peut mettre de côté de temps en temps je vais le faire l'incompétence de nos entraîneurs le jeu on va pas faire de débat là-dessus. Et encore moins sur tous ceux qui nous sortent, c'est à cause de l'oseille et tout ça. Je veux dire, bon, nos adversaires en Coupe d'Europe nous montrent encore une fois cette année que cet argument ne tient pas et renforce même plutôt le paradoxe dont je veux parler, puisque si on prend par exemple, et je vais commencer par Lyon, mais en fait je pourrais n'épargner aucun club, hein, je prends vraiment à dessein nos clubs les plus importants, évidemment. Mais par exemple, Lyon qui fait deux bons matchs contre City et qui fait des mauvais matchs contre des adversaires inférieurs. Qui, en Ligue 1, fait du bout à bout, ou du travail à mi-temps. Bon sur une mi-temps, enfin, ou pas bon sur une mi-temps, on est mené 2-0, on revient à 2-2. Ou bon sur une première période, et pas bon sur la deuxième. Ce qui provoque toujours les mêmes propos de Genesio. Alors, ça pourrait dans un second temps, mais ça va pas être l'objet du soir. Est-ce que c'est à cause de l'entraîneur qui s'est pas managé pour faire en sorte que les mecs soient performants tout le temps? C'est certainement la réponse, mais je vais pas donner la réponse, parce que je l'ai fait mille fois. Mais, sur ce bout à bout. Puis alors, l'exemple complètement fou, c'est celui de Rennes. avec la Mouchi, bon, très irrégulier. Et là, il se barre, l'autre arrive, ils font un super match à Lyon, profitant du fameux bout à bout de Lyon, ils vont gagner là-bas, et il dit, ouais, on a maîtrisé une grande partie du match, machin, comme si déjà, lui avait eu un impact. Il y a le mec, il est arrivé depuis 48 heures, il a déjà tout changé. J'ai dit, non, voilà, bon, si on, et si on parle de déclic psychologique, qui est souvent l'expression dans ces cas-là, bah, si, déclic psychologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est dans la tête. Et en fait, moi, je pense que ça n'est que ça. Que tout est là, en fait. Prends Bordeaux. Bordeaux, depuis le début de la saison, ils ont fait quoi? Nul, bien, moyen, renul, et en ce moment, bon. Là, ils se font sur une super série. Et bon, face au Paris Saint-Germain, avec, puisque je reviens à tous ces propos, là, cette petite collection depuis 10 jours de propos entendus, le joueur, je ne sais plus lequel, qui dit, ouais, c'est bien, il y avait du monde au stade et tout, ça nous a motivés. Ah bon? Bah donc, en fait, tu peux pas être motivé tout le temps. Donc, ton travail, ça n'est pas d'être régulier, ça n'est pas d'être dans l'exigence, dans le fait de pouvoir répéter les bonnes performances. Visiblement, c'est pas ça. On a eu Jean-Louis Gasset aussi. J'ai fait la gueule aux joueurs. En gros, c'est une autre façon de les engueuler. Bim, réaction, il colle 3-0 à Nantes. Voilà. Donc, en fait, c'est, on se bouge le cul dans la réaction. Mais on se bouge pas le cul a priori, parce que c'est notre taf de le faire. Et là, je rappelais dans le papier que j'ai écrit aujourd'hui sur le site.
Déclaration à contre-courant de notre ami Thierry Loret, pas après le match d'hier, mais après le match de Strasbourg à Rennes,
ouais.
Qui dit, bah, je ne peux pas non plus les féliciter, les mecs sont payés pour être bons.
Exactement. Mais Strasbourg est une sorte d'exception en Ligue 1, je l'ai déjà dit hier soir. Mais tu as raison, ça c'est des propos assez, je pense, innovants. Il y a 5 ans, j'étais allé à Marseille pour rencontrer à l'époque le directeur du centre de formation, c'était Henri Stambouli, peut-être un peu plus de 5 ans, je sais plus exactement. Et avec lui, il y avait Georges Prost, qui a été un grand formateur à Lyon, qui a bossé en Angleterre ensuite très longtemps, parce qu'on l'avait appelé pour ses qualités pour bosser en Angleterre. Et lui m'avait expliqué, en France, on est le seul pays où il faut expliquer et travailler sur la motivation. Le jeune joueur dans le club, hein, en fait, la motivation, il faut travailler dessus. Bon, j'étais sur le cul. Enfin, je sais pas si vous êtes pas sur le cul, enfin motivé. Ouais. Tu fais du sport de haut niveau. Voilà, c'est la base. Tu t'arrives, t'es tout le temps motivé. T'es motivé le matin, à midi, ouais, le soir. T'es motivé quand tu te couches. T'es motivé tout le temps. Enfin, c'est même pas que c'est ton métier, que c'est ça rejoint ta passion. La continuité, l'exigence, en gros, ça n'existe pas. Ce qui est la règle, en fait, dans notre foot, c'est l'irrégularité. Et ça, c'est partout dans tous les clubs. Et le truc qui semble acté, c'est que, en gros, les meilleurs joueurs, et ça, je pense qu'ils en sont conscients. Ils veulent se faire remarquer sur le gros match parce qu'il y a des recruteurs et puis maintenant, en fait, ils envisagent immédiatement de se barrer à l'étranger parce qu'ils ont la conscience qu'ils sont surtout une valeur économique pour le club. Et puis, bon, après, t'as les autres joueurs qui, eux, s'en foutent un petit peu. Ils ont signé leur contrat. Et la conclusion, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il apparaît qu'il y a comme deux footballs en France. T'as le football des Bleus qui sont champions du monde avec un coach qu'on sait, peu importe ce qu'on pense de lui, absolument exigeant. Ça, c'est une certitude. Lui, c'est l'exigence permanente parce que il l'a appris à l'étranger, il a été formé comme ça, il a ça en lui, et effectivement. Et d'ailleurs, il accorde très peu d'importance à ce qui se passe en Ligue 1. Ce qui compte pour lui, c'est les performances des mecs à l'étranger, ce qui est déjà un signe que tout le monde aurait dû capter depuis longtemps, ça. Et puis, donc, les Bleus avec ce coach-là et les joueurs, qui la plupart jouent tous à l'étranger, là où ils ont appris la très haute compétition, la concurrence, l'autorité, le travail. Et après, il y a l'autre football, celui qu'on vit, nous, au quotidien, qui est le football, en gros, des glandeurs, des feignasses, qui sont bons un jour, mais pas toujours. Celui de l'expression classique de « Ouais, chez nous, on travaille moins. À l'étranger, on sait bien qu'on travaille plus et qu'on s'entraîne plus. » C'est ce qu'ils disent tous quand ils y vont. Donc, à un moment, si cette mentalité-là, elle ne change pas, on pourra toujours parler de l'oseille, de la qualité de nos entraîneurs, de tout ce que vous voulez. Si on n'arrive pas à bosser là-dessus, si les mecs ne se bougent pas le cul au quotidien au lieu d'être uniquement dans la réaction, on ira nulle part. Parce que nous, c'est un mec qui vient, un entraîneur, il s'installe, il bosse pendant un an, et puis après, l'année d'après, ça marche moins bien, et puis on le vire, et puis on redémarre, et on attend le déclic psychologique. En fait, on marche à coup de déclic psychologique. J'ai pas parlé de Nantes, mais évidemment, Nantes entre également dans la réflexion.
32-16, appelez-nous si vous voulez réagir, si vous êtes pas d'accord avec Daniel, ou si vous êtes d'accord.
Alors, franchement, je vois pas comment on peut ne pas être d'accord avec ça.
Ça là, peut exister. Le 32-16, je
vois
est
pas.
Ouvert.
Franchement, je vois pas. Non, c'est une évidence. En fait, j'enfonce les portes ouvertes et les fenêtres ouvertes.
Il y a plein de trucs à dire parce que le raisonnement que tu fais, en fait, ce côté psychologique, de l'approche des matchs, la motivation, la ceci, cela, c'est ce qui fait la différence entre un bon joueur. Parce que je pense que quand t'es professionnel de football, comme n'importe quel autre professionnel d'un autre sport, c'est que t'as déjà des qualités à la base. Des qualités de vitesse, de physique, de technique, ce que tu veux, mais tu les as. Après, il y a une marche entre le bon joueur et le très bon joueur et le joueur du niveau international. Et pour moi, dans n'importe quel sport, c'est la vérité. C'est exactement ça. C'est la remise en question perpétuelle. Est-ce que t'es capable d'enchaîner les bonnes perfs? Parce que tu te remets en question, parce que c'est dans la tête n'importe quel sportif de haut niveau qui raisonne comme ça.
Ouais.
Dire si tu te satisfais de deux bonnes perfs en disant bah c'est bon là putain je suis sur une bonne série, oh puis je vais en faire moins à l'entraînement
mais
et tout ça.
Un professionnel. Mais il doit y avoir quelqu'un qui doit te pousser. À
ouais,
ça.
Mais c'est pour ça que moi j'englobe pas tout le monde dans le foot français et tous les entraîneurs par exemple français, je les mets pas tous dans la même case, même s'il y en a beaucoup, mais il y en a qui sont exigeants. Tu as cité Didier Deschamps que moi j'ai eu. Je pourrais te
Deschamps,
citer.
Deschamps, c'est un monde à part. Non, mais, Deschamps.
Non, mais ce que je veux dire, je vais te citer moi mon expérience. J'ai eu par exemple à Troyes Alain Perrin, d'accord. Donc ça remonte. C'était au début des années 2000. C'est un entraîneur qui est très exigeant, vraiment. Tu bosses énormément. Alors quand là dans ton truc c'est les feignasses, les ceci, les cela. Bien sûr que il y a des clubs où tu bosses moins. C'est la vérité avec des entraîneurs qui sont tranquille sur l'intensité que tu mets aux entraînements et même en dehors dans la vie de tous les jours au quotidien qui sont moins exigeants et ça se ressent et il y en a beaucoup malheureusement il y en a beaucoup mais il y a aussi il faut pas effacer les entraîneurs qui sont exigeants on se fout souvent de la mais tête de Vahid Halilhodžić
elle est dans tous les clubs.
Non mais
aujourd'hui dans tous les clubs tu notes
ce que je veux dire dans les paradoxes
c'est pourquoi t'as des clubs qui arrivent regarde ce que fait Rennes contre Lyon parce que l'entraîneur vient de se barrer. Ce qu'a fait Nantes quand Vahid est arrivé. Ce que fait Marseille l'année dernière dans l'état d'esprit. Et puis cette année, on n'arrive pas à mettre du sang neuf. Les joueurs sont fatigués. On fait pas redémarrer la machine. Est-ce que le discours du coach s'est usé? Tu vas peut-être t'en parler tout à l'heure. En fait, à l'arrivée, moi qui suis souvent critique sur le niveau de nos joueurs et même les niveaux de l'entraîneur, après, faut voir comment il est soutenu au-dessus. C'est ça aussi. On le dit pas, mais peut-être qu'il y a de ça aussi. Moi, je veux même pas taper sur les joueurs. Comme tu l'as dit, toi, qui as fait de la formation à très haut niveau. Moi, je crois pas. Il y a des mecs, ok, qu'on forme un peu bizarrement. Il y a des gars qui ont l'air d'être des bourrins, qui savent pas taper dans la balle. Très bien, ok. Mais la plupart ont quand même une base qui est excellente.
Bah oui.
Excellente. C'est comme ce qui fait la diff avec un autre sport que t'aimes bien entre le 50e ou le 80e joueur mondial au tennis. Il sait tout faire de la même façon que le 3e ou le 4e. Ça va se jouer ailleurs. Le travail, la motivation, qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire de ta vie, comment ça va se faire.
Exactement.
Mais aujourd'hui, les mecs, ils savent tous être bons s'ils veulent. Et d'ailleurs, la plupart, souvent, quand ils partent à l'étranger, ils progressent, ils franchissent des paliers.
Ouais, mais...
Pas beaucoup, quand même.
Oui, ils franchissent, mais bon, ça devient...
Ils ne franchissent pas si les gars veulent pas travailler.
Pour moi. Permettez-moi d'aller à contre-courant sur un point.
Mais c'est là-dessus qu'il faut bosser. C'est pas tant quand on nous dit la limite des talents. Mais à la limite, le talent, on s'en cague du talent.
Est-ce qu'il n'y a pas en France un problème aussi de général de déresponsabilisation des joueurs?
Oui, je vais absolument.
Je m'explique. C'est-à-dire que l'entraîneur en France, t'as l'impression que c'est avant tout, pour qu'il réussisse, faut que ce soit un surveillant général.
Exactement.
En mode Vahid.
Exactement.
Genre en mode militaire, moi je surveille tout, ce que vous bouffez, à quelle heure vous arrivez, combien de kilomètres vous courez à l'entraînement, et puis toi si tu cours pas, tu joueras pas, et puis toi si tu
gagnes. Exactement.
Alors que, à l'étranger, souvent, c'est plus basé sur la confiance. C'est-à-dire qu'en Angleterre, Wenger, il venait pas sur le terrain tous les jours pour voir ce que les mecs faisaient à l'entraînement. Et les managers, en anglais, c'est comme ça. Et les types, malgré tout, ils sont là parfois même une heure ou deux heures avant parce qu'ils font leur boulot perso, etc., etc. Donc en France, on a tendance à déresponsabiliser aussi. Ça, alors c'est un truc un peu culturel, ça.
Je pense qu'il y a de ça.
Oui,
par
c'est
exemple,
culturel. Oui, c'est
tu
culturel.
Prends l'exemple d'Angleterre. Moi, j'étais en Écosse et j'en ai joué des matchs aussi en Angleterre. Et j'ai failli signer dans des clubs anglais aussi. J'ai été
visiter les installations à Blackburn.
Ouais, exactement. Non, mais même dernièrement voir des séances d'entraînement, comment ça se passait. Déjà, tu peux pas comparer. Il faut pas comparer l'incomparable. Ce que je veux dire, il y a des pays, ils vivent foot, ça pue le football. Je dis, nous, c'est le sport numéro un en France, mais c'est pas le même impact qu'en Angleterre, qu'en Espagne, qu'en Italie, par exemple. Tu vois. Déjà pour comparer à, avec ceux-là. Donc déjà tu as une forme d'exigence quand dans ton pays le football est un peu plus respecté et mis en avant et que c'est ça fait partie de la politique du pays quoi. Hein? Donc l'approche elle est différente dans les clubs et tout ça et t'es pas obligé comme je te dis, t'es pas obligé d'avoir cette exigence-là à tout surveiller. Heureusement que tous les entraîneurs sont pas comme ça. Et même les joueurs ils se prennent en main. Mais après il faut savoir quand tu te prends en main savoir ce que toi t'es capable d'apporter. Alors on te donne des bases, on peut te faire le flic de temps en temps, mais après c'est toi, c'est en toi la remise en question que t'as, l'hygiène que tu vas avoir, les efforts que tu vas faire aux entraînements pour progresser à n'importe quel âge. Mais ça c'est de le plus jeune âge que tu travailles ça. Et je pense que sur la plupart, il y en a beaucoup, on leur déplie le tapis rouge dès leur plus jeune âge et ils arrivent au niveau pro. Avec des bases assez solides, parce que n'importe quel professionnel de n'importe quel sport, encore une fois, je me répète, a une valeur et a des qualités bien supérieures à la moyenne. Sinon, ils ne seraient jamais des joueurs professionnels. Mais après, ce côté psychologique, il y a un cap à passer. C'est soit tu l'as ou tu l'as pas. Si tu as été bien formé, bien conseillé, peut-être que tu arrives à te mettre dans le dur au plus vite et te remettre en question au quotidien.
Il faut quelque chose dans le club au quotidien. Pour entretenir la flamme de bosser, de jouer pour le club, de t'inscrire dans une aventure commune, qu'elle dure un an, deux ans, trois ans, en fonction du temps que tu vas rester dans le club.
Allez, ouais, gars, je vais te donner juste,
un exemple. Là,
j'ai connu le PSG, où souvent on a reproché à un moment, même si ça arrive un peu plus aujourd'hui, mais les jeunes ont du mal à gravir les échelons au Paris Saint-Germain. Je les ai vus, les jeunes arriver au PSG. Au PSG, les jeunes, par exemple, pour parler des jeunes au PSG, ils sont dans le confort. Ils arrivent aux entraînements, au niveau pro, alors dans ma génération et même aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est pas forcément bénéfique pour eux. Et tu sens qu'il y a des mecs qui arrivent pas à passer le cap parce que le Paris Saint-Germain c'est un grand club et c'est compliqué d'y jouer au niveau pro. Et après ils sont prêtés. Et quand ils partent, parce que je l'ai vécu ça aussi, j'en ai vu arriver, que ça soit à Bastia par exemple où beaucoup d'un moment ça a été, on vous prête un joueur, ils arrivent, c'est les petites starlettes. Ils en font moins et même à Bastia, ils arrivent pas à s'en sortir parce que il y a pas de remise en question, parce qu'il y a pas de travail au quotidien, parce qu'ils se sentent bien au-dessus des joueurs Bastia à l'époque. Pour parler de Bastia, je pourrais parler des autres. Et à l'arrivée, ils plongent et ça devient des joueurs que tu prêtes à tire-larigot sur tous les matchs de Ligue 1. Et après, quand ils ont fait le tour des clubs de Ligue 1, ils partent dans des petits championnats à l'étranger. Et ça part de là. Et aujourd'hui, en France, malheureusement, il y a des clubs, ils peuvent pas lutter contre ça. Donc, t'as des variations de résultats et de qualité de joueurs.
Moi, je parle même à Daniel, s'il te plaît. En 32-16 maintenant, Abdelkader est avec nous. Bonsoir.
Oui, bon, salut Gilbert, salut à tous.
Salut, on t'écoute.
Oui, déjà, je voulais saluer Jérôme Rotten en tant que supporter parisien. Salut. Je voulais saluer pour les années que tu as fait au PSG. Bon, tu as été souvent blessé, mais on aurait voulu que tu sois comme à Monaco.
Ouais, ouais. Moi aussi, j'aurais aimé avoir une équipe aussi forte.
Ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais, je voulais revenir sur l'avis de Daniel Riolo. Alors, j'étais d'accord avec lui, mais jusqu'au moment où il a dit qu'il ne voulait pas trop taper sur les joueurs. Moi, personnellement, je taperais plus sur les joueurs que sur les entraîneurs.
Non, c'était pas dans ce sens-là, Abdelkader, que j'ai tapé sur les joueurs, sur comment ils sont à la base. À la base, comme disait Jérôme, c'est tous des mecs qui ont un potentiel, puisque tu sais que c'était le grand mot à la mode qu'on a utilisé pendant des années. Oui, ils l'ont. Ils ont tous les qualités, a priori, pour faire de belles carrières. C'est comment ce potentiel n'est pas mis en avant et n'est pas exploité. Ouais. Et là, tu as raison. Ça peut dépendre, comme disait Gilbert, soit de la responsabilité de ce qu'ils veulent faire de leur vie, de la responsabilité aussi de ce qu'on leur demande.
Abdelkader, vas-y, on t'écoute.
C'est ça. Pour moi, on peut par exemple leur mettre un cadre parfait, mais si eux n'ont pas la motivation et eux n'ont pas la volonté de se transcender pour atteindre le haut niveau, on pourra jamais rien faire. Moi, j'ai l'impression que par exemple, on a ce mythe de la génération 87 par exemple. Je prends l'exemple d'Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa, c'est un mec au balle au pied, il est exceptionnel. C'est un mec quand il veut jouer, j'en parlais encore hier avec quelqu'un, quand il veut jouer, c'est un mec exceptionnel. Mais on lui a jamais dit que le football se jouait à 11. C'est un mec que, depuis qu'il était petit, il prenait le ballon, il jouait tout seul, il allait marquer. Et il n'y a aucun encadrant qui lui disait, bon, écoute, petit, ça, c'est comme ça, va falloir se remettre en question, etc., etc. Donc, comme je disais, juste avant, et tu l'as souvent dit, Daniel, ce qui fait la différence entre un Gasquet et un Nadal, par exemple, c'est la motivation de jouer dans les hauts niveaux. Je pense que tu l'as dit plusieurs fois,
Mais bien sûr! Mais évidemment, t'as raison!
Et justement, et je trouve qu'aujourd'hui...
A priori, il n'y a rien qui les différencie hein, au niveau talent.
Bah moi, honnêtement, je ne connais pas trop le tennis. Je regarde de temps en temps, mais j'ai l'impression que Gasquet, ce n'est pas une pipe. Quoi.
Mais après, ça, c'est...
Ah, mais alors attention, après, vous parlez...
On se pose et on reprend le débat.
Vous parlez d'un joueur qui est quand même a été souvent dans les 10 meilleurs. Hein.
Oui,
c'est pas n'importe qui
grand. C'est pas Gasquet. Hein.
Non, mais...
Gasquet, c'est...
Non, mais qu'il n'ait pas gagné de grand chelem, c'est une chose. Déjà, il en a fait des demi-finales. Il a fait des bonnes. Non, mais excuse-moi. Mais attends, si en joueur de tennis, tu mets Richard Gasquet, il n'y a que ça pour dire, oh, le mec, il n'a rien gagné. Oh, Richard, il a fait une carrière incroyable.
Non, Jérôme, il est néanmoins l'incarnation d'une mentalité française.
À tout de suite. Pour continuer le débat.
Oui, mais je peux comprendre.
Il est dans le gâchis.
Non, mais je peux comprendre.
C'est son choix. Donc, c'est un choix
au niveau du boulot.
Le tennis et le foot, c'est pas pareil.
RMC Football Show. L'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Ils sont là, Daniel Riolo et Jérôme Rotten. Le Stade Rennais sera au programme tout à l'heure, tout comme le Sporting Club de Bastia. Ce soir, supporter Bastia, on vous attend au 32-16 pour votre équipe type de l'histoire de Bastia et votre équipe pip de l'histoire de Bastia. Y aura-t-il du Brandao dans l'équipe pip, du Rotten?
Non.
Ah non.
Pip, non.
Non, mais il est dans l'équipe type bis.
Du Landreau, peut-être?
Oui. Après les 78, quoi.
Normal. Du? Bah, pas dans l'équipe pipe, Landreau non plus.
Novaes?
Bah, non, tu peux pas, il a fini meilleur. Non, il y a du pire.
Un petit tweet d'Armanque sur le hashtag RMC Live qui me dit: mais qui a ramassé le plus de bleus dans sa carrière, Gasquet ou Rotten? Moi, je dis Gasquet.
Ah, Gasquet, ouais. Bah, Gasquet, vu le niveau.
Je peux savoir Gasquet, mais paradoxalement, mais je ne peux pas savoir.
Ah, le tennis, c'est transparent.
C'est transparent, mais je ne peux pas savoir Jérôme Rotten, je ne connaissais pas
le tennis, tu sais les dotations, après, t'as les contrats aussi privés, ça, tu peux pas forcément le savoir.
Ah oui, c'est vrai, c'est le contrat équipementier, tout ça. C'est vrai
mais sinon, en termes de. Non,
ouais,
bah oui,
je pense.
Attends, quand ils vont en grand chelem, même s'il a pas fait de finale, Richard, mais il a fait des demi-finales, il a fait des quarts de finale. Non, ils prennent des gros chèques.
Je pense lui, ouais.
Et les tournois gagnés, on a gagné pas mal aussi. Hein.
Allez, on va conclure notre débat avec Jérémy qui veut réagir également à l'avis de Daniel tout à l'heure sur la mentalité Ligue 1. Salut Jérémy.
Oui, bonsoir.
Jérémy, nous t'écoutons.
Alors, juste avant de commencer, je voudrais demander un petit cadeau.
Ah, direct.
Oh bah.
Moi, je suis comme ça. Comme j'étais fan de Jérôme Rotten, j'aurais juste voulu avoir un petit maillot de lui.
Ah ouais, mais c'est parce que t'es pas le premier qui me le demande à l'antenne. La dernière fois, j'avais promis à un auditeur que je...
Demande-lui un maillot d'Ankara Gucci, il en reste plein.
Franchement, tu laisseras tes coordonnées pareil que l'autre, je te garantis pas, mais je vais essayer de faire le maximum.
Ce serait cool. Donc voilà, en fait, je voulais juste revenir sur deux points que vous avez soulevés. Et par rapport à Daniel, il y a quelques années, j'avais débattu pas mal de fois avec Daniel et je suis plutôt d'accord souvent avec lui. Là, juste, je le trouve qu'il est un petit peu excessif sur un point. En fait, vous avez l'air de dire que la Ligue 1, en gros, les mecs s'en branlent. Et qu'ils attendent ou de changer de club, surtout à l'étranger, ou de garder le contrat qu'ils ont, et ça leur convient. C'est un peu ça ton raisonnement, Daniel, on est d'accord?
Ça n'a été qu'un tout petit point quand j'ai dit ça, puisque, en gros, le fond du propos, c'était plus le paradoxe qui fait que, en fait, il n'y a pas une continuité dans l'exigence et qu'en fait, ils sont bons parfois, mais jamais bons toujours. C'est, en gros, Lyon qui va se mobiliser pour être bon contre City, qui 3 jours après va faire un match pourri en championnat. Ils vont faire une bonne mi-temps et pas la deuxième. Ça se décline à tous les clubs. C'est plus ça. Après, qu'il y ait dedans la possibilité que certains joueurs aient pris conscience que la Ligue 1 est tellement perdue en valeur que de toute façon, il faut surtout se faire remarquer en étant bon dans les grands matchs quand il y a les recruteurs qui sont là pour se barrer à l'étranger. Ça, je veux bien en parler, mon grand, mais pardonne-moi, mais il est évident que la plupart espèrent se barrer à l'étranger. Que ce soit pour une affaire financière ou parce que quand ils arrivent là-bas et ils le disent tous, le football, c'est mieux ailleurs. Très franchement, c'est pas moi qui l'invente depuis des années. C'est eux qui le disent. Il suffit de lire. Il faut même pas aller leur parler en direct.
Non, mais après,
il suffit de lire toutes les interviews.
T'as raison, mais après, ça dépend où aussi. Ce que je veux dire, le football est mieux.
Jérôme et Jérémy, ensuite.
Dans les grands championnats et dans les grands clubs.
Ah ouais.
Mais il est pas mieux dans les clubs moyens. Bah, je peux te dire.
La plupart, ils sont quand même contents de se barrer.
Jérôme a raison. C'est ça qu'en fait, je te reproche un peu, Daniel. C'est sur les grandes lignes, je suis d'accord avec toi. Très franchement, t'as raison. Après, par contre, là où t'es excessif, c'est que tu confonds deux choses. C'est que les grands clubs des pays étrangers, pardon, sont largement supérieurs à nous. Ah, c'est un fait. Il n'y a aucun problème. Mais après, excuse-moi, si tu pars sur de l'exigence, sur du travail, sur de la remise en question, sur des clubs de moyenne gamme française, excuse-moi, je vois pas encore en Angleterre c'est mieux. Je te confirme. C'est mieux.
Ah mais alors attends.
Non, mais là il a raison. Il a raison, Daniel.
Alors l'Angleterre, n'importe quel joueur de Ligue 1, il va les yeux fermés. Que ce soit Stoke City ou n'importe quoi, ne serait-ce que pour l'oseille. Donc déjà ça tu
mets de côté. Oui, c'est ce que j'allais te dire. On sait
pourquoi. Ça déjà tu mets de côté.
Moi je vais te dire, au bout de 6 mois il a envie de revenir. Hein.
Écoute.
Oui, la plupart c'est ça.
Laisse-le partir pour prendre le chèque.
Non mais déjà, tu es d'accord avec moi. Combien on fait des pieds et des mains pour
revenir? Il y en a plein qui jouent pas.
Ben oui. Pourquoi?
Mais je trouve qu'on dévie complètement.
On dévie complètement. Non.
Parce que le problème, parce que moi je m'en fous. Qu'il aille, que tu dises que d'aller à Newcastle ou machin, ça lui apporte pas, ou en dehors de l'oseille, parce qu'après il revient et tout. Mmh. Mais à la limite, c'est là que j'ai vraiment essayé de comprendre ce que je dis. Je m'en fous qu'il revienne. Moi, ce que je veux, c'est quand il est ici.
Oui, qu'il s'investisse.
Qu'il soit dans l'exigence quotidienne.
On le comprend.
Après qu'il aille à Newcastle et que là-bas, il ait le même comportement, ou que là-bas, peut-être, dans ces clubs anglais-là, il n'y ait pas non plus l'exigence dont on parle. Mais j'ai aucun problème avec ça.
Je vais pas
contester ça. La plupart veulent partir, que ça marche ou que ça marche pas, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une forme d'Eldorado footballistique, que ce soit financier ou pas. Même un mec qui va aller en Italie à la Fiorentina, ou à Naples, il va avoir l'impression que soit il y a plus d'ambiance autour, la passion, soit il y a machin ou ceci, cela. Oui, mais il y a soit une part de fantasme, soit une part de réalité. Soit le mec, s'il a la chance d'aller en Liga, mais il y en a peu des Français finalement qui sont acceptés là-bas, parce que ça va plus jouer au foot, ceci ou cela. Mais il y a l'idée que de toute façon.
La Liga, attention, hein, jurisprudence condamne bien.
C'est mieux là-bas. Et ça, ce qu'il faudrait, c'est changer la mentalité pour que les mecs, quand ils sont ici, puisqu'on a un réservoir qui est immense. Le réservoir, on est d'accord pour dire qu'il est immense. Le réservoir de joueurs en France, il est immense, c'est un des plus gros réservoirs, t'es le premier exportateur au monde.
Oui, non, mais bon.
Voilà.
Ça dépend des joueurs.
Mais moi, le problème, c'est que c'est comme si t'avais tous les orangers, du monde chez toi, tu ramasses, tu mets dans les caisses, sauf que le jus, tu l'as jamais. Ouais. Le jus, c'est à l'étranger qu'on a le meilleur jus. Toi, c'est là-bas que tu vas extraire le meilleur jus, et toi, t'as juste les oranges qui sont jetées par terre.
Réponse de Jérôme.
Personne vient pour prendre le jus.
Réponse de Jérôme pour conclure.
Dans tous les cas, déjà.
Les meilleurs joueurs, ils partent.
Oui,
donc les meilleurs jus, ils sont à l'étranger.
Ok, d'accord. Mais ils partent pourquoi? Parce que ils partent pas parce qu'ils ont envie forcément de partir, parce qu'ils partent parce que financièrement c'est beaucoup plus intéressant et que ils vont connaître en effet pour les meilleurs joueurs les meilleurs championnats et les meilleurs clubs à l'étranger, les grands clubs.
Mais moi, je ne travaille pas sur l'idée que ce soit chez nous, là où je te rejoins, si tu veux, sur ton
analyse, c'est pas sur les clubs comme Rennes, avec tout le respect que j'ai pour Rennes ou ces clubs-là. Moi, où je te rejoins, c'est les clubs comme Lyon, par exemple. Lyon, Marseille, les gros clubs par rapport aux gros clubs à l'étranger, où c'est vrai que par moment.
C'est mieux de jouer à Lyon ou de jouer chez les 7e de l'Angleterre?
Reste à Lyon, exactement.
C'est un super club, Marseille.
Ouais. Tu sais comment ça fonctionne. Si le mec qui prend 3 fois plus à Wolverhampton, il ira à Wolverhampton.
Quand t'es à Lyon, que t'as la chance de jouer la Ligue des Champions tout le temps et
tout. Moi, je te dis qu'un joueur qui est à Lyon, il peut prendre 3 fois plus à Wolverhampton, il va à Wolverhampton.
Mais il prendra déjà pas 3 fois plus à Wolverhampton parce que Lyon,
c'est Everton ou un truc comme ça, ou Newcastle.
Je prends un joueur, Touzard, voilà. Touzard, demain il est une offre de Wolverhampton 3 fois s'il gagne à Lyon, je te garantis qu'il y va direct.
Bien sûr qu'il y va.
Je pense que Touzard n'a pas le plus gros salaire de Lyon.
C'est même Jean-Michel Aulas qui l'emmène. Parce que tu m'as donné le joueur qui peut-être n'est pas une priorité pour le salaire moyen de gamme, tu vois. Je vais te dire, alors dans ces cas-là, tu prends le capitaine, tu prends Fekir. Est-ce que Fekir il part de Lyon pour aller à Everton? Oui ou non?
Un salaire doublé, oui.
Mais il a doublé, t'as vu le salaire qu'il a.
Arrêtez vos conneries.
Il part pas de Lyon pour aller à Everton. Je suis pas d'accord.
Encore une fois, on verra.
Everton, c'est Lucadine. Lucadine qui était remplaçant à Barcelone. Il avait plus de à Barcelone, il n'y avait pas d'issue. Il est parti à Everton. Me dis pas que Fekir qui est à Lyon, même si Lyon est sur une mauvaise passe en ce moment et qu'ils seront pas champions de France, mais ils jouent avec des champions. Le mec, il est international, il va aller se faire chier à Everton.
Fekir, il a une offre de Chelsea et d'Everton, il va vouloir aller à Chelsea. Mais si Fekir il a qu'Everton, il fait quoi?
Mais il reste à Lyon.
Encore une fois, pour moi, permettez-moi, je reviens. Le sujet, c'est pas tant ça. Le sujet, c'est que Touzard ou un autre, et en plus Touzard, ça tombe pas comme exemple parce que lui, il se donne tout le temps avec ses qualités et ses défauts. Le joueur qui va évoluer dans le club de Ligue 1, ça va être par intermittence.
Ah, mais on est d'accord.
Même s'il va à Wolverhampton ou s'il va à Trifouille-Moncu,
il se bougera le cul à tous les matchs. Sinon, on le sortira et il se fera siffler par le public ou ça n'existera pas, le manque d'exigence.
Allez, stop, les gars.
Dans un club de merde.
Attends, juste pour finir la
conclusion de Jérôme.
Non, mais le mec, il est assis sur la certitude et il ne bouge pas.
Mais tu sais, Daniel, moi, j'ai vécu dans un vestiaire et ça vient pas forcément que de toi. Ça vient aussi de l'environnement, du collectif.
Ouais, non, le climat, c'est ça. Non,
exactement.
Donc le président, l'entraîneur, les gens qu'il y a autour de toi.
Moi, j'ai vu. Regarde, j'étais au Glasgow Rangers, qui est un club qui est très respecté au Royaume-Uni. D'accord. Je suis arrivé avec des joueurs qui techniquement, mais étaient, pour la plupart, au Glasgow Rangers, d'une faiblesse.
Oui.
Écoute, je sais. Mais par contre, c'est vrai. En termes d'engagement, quand tu rentres sur le terrain aux entraînements.
Non, c'est pour ça que je te dis, c'est le minimum, c'est la base. Le reste, tu l'as pas, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas t'acheter des pieds.
Et tous les clubs français qui ont réussi, si tu veux, des bonnes périodes, que ça soit en Coupe d'Europe, nous, on en est l'exemple type à Monaco, parce qu'on avait un mec, Didier Deschamps, qui nous a apporté ça, c'était un esprit de compétiteur au quotidien. Et il y allait. J'ai eu la chance d'avoir Alain Perrin, on peut critiquer Alain sur d'autres choses, mais au moins ça, le fait de se bouger aux entraînements, c'est pour ça qu'en France, c'est peut-être une minorité qui te permet au club de transcender, parce que à Troyes, c'est la même chose à Troyes. Tu crois que les défenseurs qu'il y avait à l'époque de Troyes, si t'avais dit, tu les vois individuellement à l'entraînement, tu te dis, mais eux, ils vont jouer la Coupe d'Europe? Eux, ils vont emmener 3, 4e ou 5e du championnat de France, mais c'est pas possible.
Respecte Gary Bamzin.
Mais encore Gary, c'était un des meilleurs footeux. Il y en avait d'autres, hein, tu vois. Tu reprends toute la défense. Non, mais c'est vrai. Il y avait des pieds carrés. Mais sauf que, aux entraînements, il y avait un entraîneur qui était là avec son adjoint et le préparateur physique, il nous lâchait pas. Et il te met ça dans la tête. Moi, je l'ai gardé tout au long de ma carrière. Le problème, c'est que, non, mais les jeunes joueurs, il faut leur répéter ça. Il faut qu'ils aient.
C'est pour ça que je te disais que le formateur me disait, on est le seul pays, on travaille sur la motivation et sur l'exigence collective qu'il y a dans un club.
Ben, l'exigence dans le vestiaire, c'est aussi dans l'after, l'exigence du timing.
Je te raconte une anecdote que m'avait raconté Paoletta à ce sujet-là, à l'époque où tu étais d'ailleurs au pays.
Dans quelques instants, Rennes est au programme, c'est l'after qui revient tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Ils sont là, Jérôme Rotten, Daniel Riolo, bien sûr. C'est l'after jusqu'à minuit. Alors, tout à l'heure, il y aura l'Angleterre au programme avec Julien Laurence, le Sporting Club de Bastia pour les équipes type, équipe pipe. J'en reçois plein. Hein. Il y a de belles équipes pipe, là. J'en ai une là de Julien qui me cite du Chimbonda, du Djebour, du Salim Arash, du Bifouma. Entraîneur Claude Makelele, bien sûr, dit-il. On y reviendra tout à l'heure. On va parler de Rennes dans quelques instants avec notre invité Antoine Biard qui est là. Antoine, bonsoir.
Bonsoir.
Juste avant Rennes. L'anecdote
De Daniel.
Oh oui,
Daniel.
Non, j'ai failli oublier, dis donc. Oui, sur l'exigence présente à
mais rapide, l'anecdote,
niveau, hein. Et pas que sur terrain, tout ça. Il me disait une fois, tu sais, dans votre période où ça allait pas. Il me dit, en fait, le souci, et lui, il avait pas connu ça dans son éducation footballistique, il dit, même quand on sortait du terrain, tu sais, tu...
Tu parles de qui, là? Tu peux rappeler
Paoletta, quand tu sors de la pelouse pour aller jusqu'au vestiaire, et après, quand tu arrives au camp des loges pour ton quotidien et tout, il dit... Quand la période où on n'allait pas, qu'on avait des mauvais résultats, on ne sentait pas que ça pouvait attrister les gens. En fait, on continuait de passer un peu pour, en gros, les vedettes du club. En fait, il dit, il faudrait, et j'espère que dans d'autres clubs, c'est quand même, sentir que, par exemple, je sais pas, le magasinier ou le mec qui ouvre la porte et tout, il fait la gueule parce qu'il est touché par notre mauvais résultat. Qu'il sente que le club, de tout en haut du président au mec qui ferme la porte du vestiaire, tout le monde va dans le même sens au point que ça touche tout le monde. Lui, il disait parfois, on a l'impression qu'au final, nos mauvais résultats, ça touchait pas grand monde, quoi.
Ouais, franchement, je le rejoins pas surtout là-dessus parce que pour bien me rappeler de cette période-là, et j'avais un rôle important, rappelle-toi, plus que lui, en plus à l'époque, parce que lui commençait à tirer la langue et il jouait plus beaucoup, il rentrait, il était souvent écarté et que je peux te dire que tout le monde avait conscience que le club il était en grand danger et qu'on était tous dans la merde quoi.
Non, donc, il a pas dit ça, il a dit que ça que le mec, non, mais gros, disait j'aurais presque voulu que le mec ouvre la porte, il fasse la gueule.
Je peux comprendre.
Il me fasse la gueule.
Mais ils à disent, cette période-là,
ils disent, putain, mais qu'est-ce que encore ils disent, mais putain, mais qu'est-ce que vous foutez?
Pourquoi vous
bougez pas?
Raison, mais
c'était ça en fait, ça, à l'époque. Remarque. C'était pas que ça. Non, mais touchait pas.
Mais
c'est
peut-être
pas
à l'époque, comme je te dis, c'est que moi j'avais un rôle important, il y en avait deux trois dans le rôle important, et que lui avait aussi un rôle important, et que je pense qu'il aurait pu faire un peu plus.
On enchaîne les gars, attention, musique, Stade Rennais. Alors ça, Antoine, tu vois, ça date d'il y a 10 ans, hein, Daniel, à peu près. À l'époque où à Rennes, bah, il se passait rien.
Il paraît que tu veux les droits pour ton documentaire, pour que ce soit la musique d'ambiance du doc.
Ouais, bien sûr, ouais, je vais réfléchir à tout ça. Laisse-moi un petit peu le temps, là, je démarre le truc.
Ouais, donc, je t'explique la genèse du truc. Et puis, c'était une époque, faut reconnaître que, bah, à Rennes, il y avait jamais d'ambiance, tu vois. C'était un peu bizarre. Puis, le résultat, c'était toujours un peu bof-bof. Et après, bon, on s'est moqué de Rennes avec les finales contre Guingamp, tout ça, normal, hein, le chambrage habituel du foot, tu vois. Puis, c'est resté. Puis, les Rennais, au début, ça les faisait marrer. Puis, au fur et à mesure du temps, ils ont commencé à nous en vouloir, quand même, tu vois. Ouais, bon, au bout d'un moment, votre blague, elle est bien, elle est bon. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'en fait il se passait un truc. Là, je t'adresse de quoi, Daniel, il y a 2-3 ans.
Bah, franchement, je sais pas. Mais c'est à toi de nous le dire, c'est à lui de nous le dire plutôt.
Oula, il y a de nouveau de l'ambiance, il se passe quelque chose. Donc on est ravis de t'avoir parce que ce soir on veut réhabiliter les supporters rennais. Voilà. Ouais, par ton intermédiaire.
Déjà, c'est gentil de m'inviter. Je suis un petit peu fatigué parce que je me suis permis du déplacement à Jablonec. Tu sais, j'ai fait 3 jours avec les ultra rennais.
Ah, t'étais dans la fameuse soirée?
Et pour être très honnête, il y avait 500 types.
T'étais dans la soirée ou pas?
Non, je n'étais pas dans la soirée privée, mais par contre, bon, après, ça, c'est évidemment que de la rumeur. Mais il y avait quand même 500 types, qui ont traversé l'Europe, tu vois, pour soutenir, leur club, le Stade Rennais. Et je pense que c'est un petit peu un cliché. Aujourd'hui, le club, et même depuis plusieurs années, a une moyenne, je crois, de spectateurs de 22 000 personnes, si tu veux, pour une ville d'un peu plus de 200 000 habitants. Si tu fais un rapport, c'est comme si le Paris Saint-Germain, il y avait 500 000 ou 1 million de personnes tous les week-ends au match. Tu fais là une proportion de la taille de la ville. Ouais. Donc, si tu veux, moi, je pense qu'à Rennes, il y a un public extrêmement fidèle. Pour moi, c'est un des actifs peut-être principal, l'actif principal du club. Après, bah oui, l'ambiance, effectivement, c'est pas Saint-Etienne, on est d'accord. C'est pas l'OM, mais il y a une culture ultra qui naît depuis plusieurs années avec aujourd'hui 950 membres d'une association qui s'appelle Roison Celtic Club et dans laquelle je me suis immergé pour mon documentaire. Donc là, t'es en cours de création
du doc, hein, sur les supporters rennais.
Ouais, ça va être un 52 minutes. Pour l'instant, j'ai fait 6 tournages, j'en ferai une dizaine. Et en fait, bah ouais, il y a du répondant, il y a une atmosphère.
Ah, les mecs, 9 minutes.
Non. Là, je suis à une vingtaine de minutes déjà. Oh, mais on sent, tu vois, par exemple, le clip, moi, je suis pas grand chose sur Twitter. Par exemple, j'ai 41 000 personnes, je crois. Qui ont maté le clip, c'est assez énorme.
C'est quoi le clip? C'est genre
c'est le teaser du documentaire.
On l'a mis sur News là.
Oh bah là, c'est bon, là tu vas avoir 2 millions de vues là.
Ouais, j'espère grâce à toi, Jérôme.
Ah bah là ouais, bah, si je le
en fait, c'était quoi ton idée? C'était de montrer qu'il y avait un vrai mouvement populaire qui est en train de se créer à Rennes.
Ouais, bah il existe depuis longtemps. Il existe depuis longtemps parce que l'association elle a été créée officiellement en 91 mais officieusement en 87. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu une culture ultra depuis très longtemps à Rennes, il y a une atmosphère. Effectivement, depuis quelques années, il y a une culture des tifos. Notamment, ils s'inspirent de toutes les séries télé, Breaking Bad, ou je pense aussi à la Casa del Papel qui font le tour d'Europe. Tu vois, je sais que par exemple, les acteurs de la Casa del Papel ont relayé eux-mêmes le tifo du Roison Celtic Club. Donc, il y a une vraie culture supporteriste qui existe. Après, voilà, elle peut être
critiquée. Alors, en Bretagne, on dit peut-être comme ça, mais en vrai, c'est la Casa del Papel.
La Casa del Papel, ouais. Alors
Le
problème, c'est que j'ai fait italien, tu m'excuseras, mais je crois que t'es aussi bilingue en italien. Mais voilà, donc c'est une aventure. Après, les gars, enfin, moi, ce qui m'intéresse aussi dans le documentaire, c'est de déconstruire un peu certaines caricatures qu'on peut avoir du supporter. Que ce soit Rennes,
Ou du Rennais?
Du supporter, que ce soit à Rennes ou ailleurs, parce que finalement, les supporters de Rennes, ils sont à Rennes, donc ils sont supporters, mais c'est de la même chose, on choisit.
Ils ont pas de signe distinctif, il n'y a pas quelque chose qui ferait que le supporter de Rennes est différent du supporter d'un autre club.
Bah, déjà, le supporter.
Parce que moi, perso, vite, à toi de me dire, tu te trompes pas, mais on est quand même beaucoup en contact avec les supporters, que ce soit via les réseaux sociaux quand ils te parlent ou même qu'ils t'insultent, parce que c'est souvent ça.
Ça arrive.
Le Rennais, moi, j'ai toujours trouvé que globalement, il avait beaucoup de second degré.
Ouais.
Et pas mal d'ironie. Alors, est-ce que c'est l'histoire
moins,
du club
moins que le Lyonnais
Le Lyonnais, c'est de zéro. pour ça, mais de tous, quoi. Tu vois.
Oui,
rien
oui,
à voir avec le Marseillais.
C'est
là où tu trouves de tout. Non. Tu sais, tu trouves vraiment de tout. Le Lyonnais, il est un peu uniforme. Et alors, on rigole. Et alors, jamais. Jamais.
Surtout ou
alors
entre quand tu parles de son président.
Ou alors entre Lyonnais, parce que évidemment tout ce qui est en dehors de Lyon, c'est évidemment nul, parce qu'ils sont vraiment très sectaires. Mais en même temps, quand tu te fais fesser
par Guingamp à chaque fois en finale, heureusement que t'as du second degré, parce que sinon t'arrêtes d'aller au stade, non?
Ouais, bien sûr. Heureusement que t'as un peu d'autodérision, mais après le club a quand même, tu vois, de Coupe de France. C'est un club qui se maintient en Ligue 1 depuis plus de 25 ans. non, mais c'est vrai. Après, effectivement, il y a pas de titre. Mais les supporters restent là, tu vois, malgré les deux défaites qu'on a.
Non, mais c'est vrai qu'à partir du moment où quelque chose se crée et que les mecs sont en train de venir, on les...
La vérité, c'est que tu vis des émotions. Ouais, c'est-à-dire que moi, ça m'embêterait, par exemple, d'être supporter du Paris Saint-Germain, t'imagines. C'est extrêmement ennuyant. C'est-à-dire que tu gagnes en permanence sur tous tes matchs de championnat. Désolé de te le dire.
Non, après, alors, tu vis des émotions. T'es par ailleurs un vrai supporter de Rennes,
Ouais, je suis un supporter de Rennes. J'ai bossé un peu
la première année
en tant que stagiaire, toi. J'ai aussi été, j'étais joueur au stade, en amateur, évidemment. Mais j'ai fait quand même 10 ans, j'ai porté un peu les couleurs rouge et noir. Donc, ouais, c'est un club qui me parle.
Les supporters parisiens seront intéressés d'entendre qu'il vaut mieux supporter Rennes que le PSG.
Ah ouais, mais tu t'ennuies, Daniel.
Ça, c'est, là, je dois dire que là,
bah ouais, mais
on attend quelque chose qui est assez rigolo. Ah ouais,
mais tu t'ennuies, je veux dire.
Tu crois pas que c'est même pas un propos, ça, que chacun est supporter de son club et puis basta.
Non, mais chacun est supporter de son club.
Et il s'éclate avec son club.
Bien sûr qu'il s'éclate à travers son club.
Et c'est ça qui fait que,
par exemple, les supporters du Paris Saint-Germain dans les années 80, je trouvais ça peut-être beaucoup plus intéressant.
Oui, parce que quoi, supporter, ça veut dire souffrir.
Non, pas forcément, c'est vite différent d'émotion.
Ça veut aussi dire souffrir, effectivement.
C'est-à-dire que c'est vite des émotions différentes.
Quel est le club dont les supporters ont le plus souffert ces dernières années? Je pense que c'est le PSG.
Ouais, je pense que c'est le PSG. Ouais, pas sportivement.
Pardon?
Bah, sportivement, si.
C'est un club qui a pris une plus lourde claque que celle du Barça?
Moi, je pense que
c'est trois.
Ils ont fait 12 dépressions. Une claque après, ils sont remis, puis redépression.
40 matchs. Les mecs gagnent en permanence. Donc, effectivement, moi.
Ils gagnent, sauf qu'à force, tu relativises la victoire, sauf que tu attends des trucs qui ne viennent pas. Non, en fait, chacun sa vie.
Chacun son lot de frustration.
Voilà, chacun sa frustration et le plaisir là où il peut le trouver.
Les émotions. Non,
c'est comme Strasbourg, les supporters. Ils font nul contre le PSG hier.
Heureusement qu'à Rennes, vous trouvez des émotions dans le supporterisme. Quand l'équipe gagne, par exemple, à Jablonec et s'offre une finale, même si le match était pourri.
Et le Parisien va trouver ça ridicule.
Et le Parisien va s'éclater en faisant un bon match à Naples ou en battant Liverpool. Heureusement qu'ils ont des émotions aussi. Mais sinon, je vais te dire que si c'est gagné d'avance pour le PSG, je te parle, dans les années là, mais forcément, quand tu gagnes un championnat, même si t'es habitué à gagner, bien sûr qu'il y a beaucoup d'émotions, ça fait partie du foot. Que ça soit les joueurs. T'imagines comment tu parles, ça veut dire que les joueurs, ils transmettent plus d'émotions à leurs supporters. Au PSG,
la souffrance, parce qu'il y en a quelqu'un qui gagne.
Il y a différentes formes de souffrance.
On va reparler de l'émotion que transmet Danzé aux ultras du Stade Rennais dans quelques instants. Évidemment, avec Antoine Bière.
Danzé, il est avec vous dans le COP maintenant, non?
Ouais, ça, je sais pas. Moi, j'y suis pas toutes les semaines, mais effectivement,
il est dans le COP.
Il est vraiment proche,
Allez, à tout de suite. Reste programme plus Bastia, plus l'Angleterre, plongé dans le monde des ultra-rennais avec Antoine Bière dans l'after.
RMC Football Show, l'after foot.